Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bossuma, voici le sommaire. Élection 2023 en RDC. 8 candidats président de la République et d'autres leaders politiques demandent l'annulation totale de ce qu'ils qualifient de simulacre d'élection à tous les niveaux et la mise à la disposition de la justice du président de la CENI et de ses membres. Ils réagissent ainsi après l'invalidation par la CENI de 82 candidats députés pour notamment fraude électorale et annulation des législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions de Massimanimba et de Yakoma. Au moins 300 personnes mortes, plus de 43 000 maisons écroulées, 1325 écoles détruites, des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et des routes dévastées. C'est le bilan dressé par le ministère des Affaires humanitaires à la suite des inondations observées ces dernières semaines à travers la RDC. Et puis, l'invité de ce matin, Gary Sakata, professeur des droits à l'Université de Kinshasa et député national, il explique la question du seuil de représentativité avant la publication des résultats provisoires des législatives nationales et provinciales par la CENI. Madame, Messieurs, bonjour. Affaire invalidation par la CENI de 82 candidats pour notamment fraude électorale aux législatives nationales, provinciales et communales et annulation des élections législatives nationales et provinciales dans les circonscriptions électorales de Massimanimba, province du Kwilu et de Yakoma, province du Nord-Ubangi. Réagissant à cette décision de la CENI, 8 candidats président de la République ainsi que d'autres leaders politiques demandent l'annulation totale de ce qu'ils qualifient de simulacre d'élections du 20 décembre à tous les niveaux et la mise immédiate à la disposition de la justice du président de la CENI et de ses membres, de leurs complices ainsi que de tous les autres acteurs de la fraude électorale, disent ces candidats présidents. Il s'agit de Floribert Anzuluni, Franck Diongo, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Seth Kikuni, Matata Ponyo, Denis Mukwege et Deli Sesanga. Dans une déclaration commune faite hier à Kinshasa, ils ont dénoncé selon eux la complicité de la CENI avec le pouvoir en place pour orchestrer la fraude. On écoute Martin Fayulu, l'un d'eux, au micro de Grace Amzati.
La simple analyse de la liste des 82 sacrifiés démontre que la fraude s'est disséminée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci implique en réalité qu'elle a des dimensions beaucoup plus graves, surtout lorsque l'on constate que les bénéficiaires de machines à voter sont tous globalement de la même famille politique de M. Tshisekedi et ont les statuts étatiques. Par quelle magie, dans une élection combinée avec un seul bulletin de vote, la CENI peut nous expliquer que seules les législatives ont été corrompues et pas la présidentielle. Ceci atteste la complicité entre la famille politique de M. Félix Tshisekedi, les organes de l'État et la CENI. Par ailleurs, cette situation démontre de manière irréfutable que la CENI, à tous les niveaux, est non seulement actrice de la tricherie qui a eu lieu, mais plutôt instigatrice.
D'autres réactions, il y en a eu nombreuses, aussi bien de la part des formations politiques que des candidats invalidés. Le condensé de certaines réactions avec vous au Paul Mateno Mayamba.
D'abord, cette réaction de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, qui soutient la décision de la CENI d'avoir annulé les élections législatives nationales, provinciales et municipales dans 2 circonscriptions, mais aussi certains suffrages obtenus par quelques candidats qui seraient, selon ce parti présidentiel, auteurs des actes incriminés et perturbant le processus électoral. Dans un communiqué parvenu à Radio Okapi ce samedi, ce parti précise que le fait et irrégularité ayant conduit la CENI à prendre cette décision n'affecte nullement les résultats de l'élection présidentielle. Pour sa part, le professeur Sam Bokolombe a affirme, je cite, « J'ai toujours été pour les principes des sanctions de clonage électoraux par la CENI, mais je n'en suis pas un ». Fin de citation. Autre réaction, c'est celle de Colette Tchomba qui s'est dit attristée pour ce que la CENI vient de lui infliger. Tout ceci est le résultat d'une grossière manipulation, ajoute-t-elle. Kinké Moulumba, autre candidat, affirme « Je jure que jamais je me serai rendu coupable de quoi que ce soit. Jamais je me serai trouvé une machine à voté. Quant à lui, Charles Mboutamoutou, actuel ministre provincial de l'éducation au ville de Kinshasa et secrétaire général du parti ACP, cher à Jean-Tuny Ngobila, accepte de perdre le suffrage à la seule condition que d'autres bourreurs d'urnes et délinquants soient débarqués des législatives.
Une autre réaction, c'est celle de Justin Kalumba, ancien ministre des Transports, qui a battu campagne dans la circonscription de Kasongo dans la province du Maniema. Mwalimu Djuma, son assistant et directeur de campagne, s'est dit surpris par la décision de la CENI contre ce candidat. Dans une interview exclusive à Radio Kapi hier à Kinshasa, il a appelé la centrale électorale à corriger rapidement cette erreur qu'il qualifie de matérielle avant la publication des résultats des élections législatives. Mwalimu Djuma le dit au micro de Paul Matendo.
Nous, et avec notre candidat, l'honorable Justin Kalumba, eux ne se reprochent de rien. Donc, il n'y a aucun incident à notre charge jusqu'à preuve du contraire. Il y a eu des incidents à Kasongo, il y a eu des maisons brûlées, des centres vandalisés. La CENI a été saisie par ces cas-là. Il y a eu des témoins séquestrés, mais nous, aucun candidat n'a déposé plainte contre nous, même les services de sécurité, mais tout le monde est unanime, aucun cas. Dans ce sens, et là nous sommes au grand regret que ces cabales soient montées à un certain niveau pour saper l'honneur d'un homme honnête. Ce que nous demandons à la CENI, nous croyons que c'est une erreur matérielle. Et comme c'est une erreur matérielle, son nom a été glissé par imprudence sur cette liste, que la CENI retire ce nom-là de ce digne fils du pays qui a bien bâti sa campagne, qui a conquis les âmes, qui a été élu massivement comme premier élu dans les territoires de Kasongo, que la CENI retire avant la publication.
Pour sa part, le coordonnateur de la société civile dans le territoire de Manono, province du Tanganyika, salue la mesure prise par la CENI, celle d'invalider certains candidats. Parmi eux, celui de Manono qui est sanctionné notamment pour fraude et violence contre les agents électoraux. Dans une déclaration hier à Radio Kapi, Valérie Nkumwimba, coordonnateur de la nouvelle société civile à Manono, encourage la CENI à poursuivre avec les enquêtes pour sanctionner d'autres candidats qui se sont compromis. On écoute Valérie Nkumwimba au micro de Paul Munanga.
Chez nous, au Tanganyika, j'ai vu, il y a un candidat de ma circonscription électorale qui est invalidé, dont les suffrages ont été annulés pour fraude, vandalisation des centres électoraux, et il a aussi menacé, brutalisé, dispersé les agents de la CENI cette nuit-là, pendant qu'ils étaient en plein dépouillement. Au Tanganyika, il n'y a pas que Emmanuel Moulopwe qui devait être invalidé de la circonscription de Manono. À Kongolo, il y a eu beaucoup de cas de fraude, nous avons appris. Certaines personnes qui sont autorisé même de prendre des machines, aller avec dans des lieux très calmes et là, ils commençaient à voter pour eux. Je suis content que dans les communiqués que la CENI ait fait savoir que les enquêtes sont en cours. Alors, j'en appelle à la conscience de tous les Congolais qui sont dans les affaires de la CENI que l'acte que vous venez déposer, c'est un acte qui va donner encore des crédits à la CENI comme une institution d'appui à la démocratie et vous demande ensuite de poursuivre tout ce monde-là qui a posé des actes de fraude. Ils sont nombreux. Il n'y a pas que cette liste d'épées de gens que vous avez rendue publique.
De son côté, la Voix des 100 voix pour les droits de l'homme pense qu'il faut que la population soit représentée par des personnes réellement élues au Parlement et dans les assemblées provinciales. Dans une déclaration faite samedi, la VSV félicite la CENI d'avoir suivi les recommandations faites par les observateurs électoraux en sanctionnant les présumés tricheurs des élections du 20 décembre sans distinction de leur couleur politique. Elle plaide pour la démission immédiate de toutes ces personnalités de leurs fonctions pour permettre à la justice de bien effectuer son travail. On écoute à ce sujet le directeur exécutif de la VSV, Rostin Manketa, au micro de Jeff Ngoy.
La CENI vient de donner un signal fort visant à contribuer à la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Notre organisation salue le fait que la CENI ait suivi les recommandations de nombreux observateurs électoraux, dont ceux déployés par la Voix des 100 voix. Ce qui est très important à noter et à saluer, c'est le fait que la CENI a sanctionné de manière indistincte tous les candidats, y compris ceux de partis au pouvoir. Et cela, il faut le souligner, augure de bonnes perspectives par rapport à la démocratie en République démocratique du Congo. En principe, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence, tous ces candidats sanctionnés par la CENI devraient démissionner de leurs fonctions en vue de permettre à la justice congolaise de mieux faire son travail.
Direction le Congo central, la montée des eaux du fleuve dans la cité de Luozi a occasionné la délocalisation provisoire du beach de Luozi et a créé tant d'autres problèmes tels que les écroulements des maisons situées le long du fleuve. Le président des 10 secteurs de Luozi qui livre l'information indique qu'à cause de la délocalisation du beach, les élèves qui fréquentent les écoles situées sur l'autre rive de la grande rivière Luozi payent 200 francs congolais avant chaque traversée en pirogue. Le point avec Nana Plurish Mambo.
À la suite de la montée des eaux du fleuve Congo, la passerelle donnant accès aux véhicules et piétons dans les bacs est submergée. Cette situation a occasionné la délocalisation du bus de Luozi du quartier Kimvungu au quartier 1 dans la cité de Luozi, soit une distance de près de 10 km. Même dans l'actuel beach, la boue rend difficile l'accès des véhicules et motos sur les bacs. L'autorité locale cherche à jeter des moellons pour décanter la situation, a indiqué Joseph Lusanlenvo, président des 10 secteurs du territoire de Luozi. Les élèves qui fréquentent les écoles du quartier Kimvungu, situées sur l'autre rive de la rivière Luozi, qui d'habitude prennent les bacs gratuitement, déboursent pour le moment 200 francs pour chaque traversée. Pour alléger les difficultés des parents, ce samedi, l'autorité locale a échangé avec les piroguiers pour revoir à 100 francs les prix de la traversée. Autre conséquence de la montée des eaux à Luozi, c'est le manque d'eau potable depuis près de 2 mois. Le château d'eau est entièrement submergé. La population utilise l'eau du fleuve et des puits pour les travaux ménagers et achète l'eau potable à 300 francs par bidon de 25 litres. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Et puis, s'agissant justement des inondations des dernières semaines à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo, on parle d'au moins 300 pertes en vies humaines enregistrées, plus de 43 000 maisons écroulées, 1325 écoles détruites, des centres de santé touchés, des marchés publics affectés et des routes dévastées. C'est le bilan dressé par le ministère des Affaires humanitaires et Solidarité nationale à l'issue d'une réunion d'évaluation de la crise, réunion tenue le vendredi 5 janvier à Kinshasa. À cet effet, le ministère lance un appel de solidarité et de secours d'urgence pour tenter de sauver des vies. Jacques-Yves Moulima, reportage.
Cette demande de mise à disposition des ressources pour l'assistance humanitaire d'urgence est adressée aux instances du gouvernement central et à toute la communauté nationale et internationale aux fins de permettre le déploiement des équipes sur terrain. Objectif étant de sauver des vies humaines et d'assurer la prise en charge holistique des communautés affectées. En effet, d'après le monitoring de la régie des voies fluviales, plusieurs provinces sont touchées par la montée exponentielle des eaux du fleuve et des rivières de la RDC. Ce sont notamment les provinces de la Tchopo, la Mongala, l'Équateur, le Nord et le Sud Ubangi, les Kwilu, le Maïndombe, le Congo central, la Lomami, le Kasaï central, le Sud Kivu et la Tchopa. Cette situation a affecté plus de 300 000 ménages et les a exposés à des risques de maladies hydriques et autres épidémies. De ce fait, une coordination multisectorielle est mise en place pour tenter de répondre efficacement à cette urgence. Notons que cette réunion d'urgence a mis autour d'une table les secrétaires généraux et les experts des ministères de l'Intérieur et Sécurité, de la Santé publique, Hygiène et Prévention, de l'Agriculture ainsi que des Affaires humanitaires et Solidarité nationale.
Autre nouvelle, il faut que la Coupe d'Afrique des Nations CAN soit ressentie sur tout le continent et surtout là où les gens ont perdu de l'espoir, tels que dans les camps des déplacés. C'est le message lancé hier samedi au terrain de foot de Boulengo, à une dizaine de kilomètres de la ville de Goma, par le secrétaire général de la CAF. Une façon pour les dirigeants de la CAF de dire que cette population n'est pas oubliée à l'occasion de la CAN qui débutera dans quelques jours en Côte d'Ivoire. Un événement sportif exceptionnel co-organisé avec le programme alimentaire mondial PAM et auquel a pris part le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Peter Chirimwami. Sifa Maguru nous retrace les grands moments de ce festival de football au camp des déplacés de Boulengo.
Ce festival de football de la Coupe d'Afrique des Nations organisé à Boulengo, quartier Lac Vert, a regroupé une dizaine d'équipes de jeunes joueurs, filles et garçons, dont l'âge varie entre 12 et 15 ans et issus de différents camps de déplacés. Ces derniers ont livré au moins 8 matchs, à l'issue desquels des gagnants ont reçu des médailles et d'autres récompenses. Selon le secrétaire général de la CAF, Véron Monsengo Omba, l'objectif est d'utiliser le football comme un vecteur d'inclusion sociale sociale et d'unité, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la situation des enfants dans les camps de déplacés et bien d'autres.
C'est vrai que les conditions sont inacceptables. Donc j'appelle à tout le monde, ceux qui peuvent, pour donner l'espoir et bien plus améliorer la vie de ces personnes, surtout des jeunes enfants qui habitent ici.
Occasion pour le gouverneur Chirimwami Peter de condamner une fois de plus la guerre d'agression du M23.
Aujourd'hui, avec l'agression du Rwanda dont nous sommes victimes, nous comptons plus de 3 millions de déplacés. Nous demandons plus les plaidoyers pour que les agresseurs puissent quitter notre pays et que nos populations rentrent dans leur pays d'origine.
Goma Sifa Maguru, Radio Okapi.
Actualité internationale. Nous sommes au Soudan. Le général Al-Burhan rejette toute forme de négociation et de tentative de réconciliation avec son rival Hamdan Daglo, responsable des forces de soutien rapide qui lui livre une rude bataille depuis avril dernier. En tournée dans plusieurs capitales africaines, Emeti, comme il s'est fait appeler, avait souligné l'idée d'une reprise des pourparlers devant aboutir à un cessez-le-feu, une proposition rejetée vendredi par le chef de la transition soudanaise qui estime inconcevable de parler de réconciliation avec des auteurs de crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis au Darfour Ouest et dans tout le Soudan. Les statistiques des organisations locales et internationales indiquent qu'au moins 12 000 personnes ont été tuées et des milliers de blessés depuis le déclenchement de la guerre en mi-avril.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Gary Sakata, professeur de droit à l'Université de Kinshasa et député national. Il explique la question du seuil de représentativité avant la publication des résultats provisoires des élections législatives, nationales et provinciales par la CENI. Gary Sakata s'entretient avec Grace Hamzati.
Professeur Gary Sakata, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, la question des seuils de représentativité est largement commenté et interprété de plusieurs manières. D'entrée de jeu, c'est quoi un seuil de représentativité?
Bon, le seuil de représentativité ou seuil même d'éligibilité, comme on peut l'appeler autrement, c'est en réalité un pourcentage qui est prévu par la loi électorale pour permettre aux partis politiques ou à certains regroupements de pouvoir partager les différents sièges qui sont mis en liste, quoi. Cela en réalité pour but principal, selon le législateur, le seuil a été fixé uniquement pour permettre à ce que les partis qui sont au pouvoir ou les regroupements qui sont au pouvoir soient les plus représentatifs possibles sur l'ensemble du territoire, en fait.
Alors, cette fois-ci, dans ce processus électoral, il y a plus de 20 000 candidats, par exemple, à la députation nationale et il y a 500 sièges. Qu'est-ce qui va se passer selon vous? Comment on calcule le seuil?
Alors, le seuil de représentativité est de 1% pour la députation nationale, de 3% pour la députation provinciale et de 10% pour les municipales. Alors, cela se calcule sur base des suffrages effectivement exprimés, donc valablement exprimés. En d'autres termes, j'ai entendu le président de la CENI ces jours-là dire, lors de la proclamation du président de la République, dire qu'il y a eu plus ou moins 18 400 et quelques qui ont voté. On devrait donc comprendre que le seuil pour la députation nationale sera de plus ou moins 184 000 votants pour qu'un parti puisse avoir accès à un siège. Donc le 3% pour la députation provinciale se calcule au prorata du nombre de votants effectifs dans la province et non pas au prorata du nombre sur l'ensemble du territoire. La même chose en ce qui concerne les municipales, ça compte pour la ville ou encore pour les territoires concernés.
Et qu'est-ce qui va se passer si un parti politique n'a pas atteint ces seuils?
Premièrement, si un parti politique n'a pas atteint les seuils, il n'a pas le droit d'espérer avoir un siège. La règle est posée. Donc, ne pourront avoir de siège à titre principal que les partis qui ont atteint les seuils. Cependant, au regard de la situation qui est la nôtre actuellement, où il y a eu beaucoup de candidats députés nationaux, beaucoup de candidats députés provinciaux et surtout au niveau municipal, il est fort à craindre qu'on arrive dans des circonstances où, premièrement, le siège à pourvoir soit qui est du reste par rapport aux partis qui ont effectivement le seuil, il peut y avoir du reste, ou encore qu'aucun parti, surtout au niveau municipal ou au niveau provincial, ne puisse atteindre le seuil. Mais dans ces conditions, je crois que la réponse est donnée par la loi elle-même, c'est l'article 78, dernier alinéa. Dans ces conditions-là, lorsque les partis qui ont atteint le seuil ont le siège qui leur sont dus en tenant compte du quotient électoral et qu'il y a du reste, donc malheureusement, on devra les donner selon l'ordre aux partis qui n'ont pas atteint le seuil. Donc malheureusement, c'est ça qui est inscrit dans la loi, de sorte que le seuil de représentativité, à mon avis, revêt un caractère plus ou moins relatif.
Du côté de la CENI, on indique qu'un candidat peut avoir 7000 voix ou 10000 voix, mais si son parti n'a pas atteint les seuils, il ne sera pas proclamé élu, mais celui qui a moins de voix que lui, si son parti a atteint les seuils, celui-là sera proclamé élu. Est-ce que vous êtes de même avis?
Oui, non, totalement du même avis, sauf dans les circonscriptions où il y a un seul siège. Et dans les autres circonscriptions, ce n'est pas le candidat qui gagne, c'est la liste qui gagne. Donc, prend le siège, le parti ou le regroupement dont la sommation des voix des gens qui sont sur la liste est la première. C'est pas moi, Monsieur Sakata, qui prend seul le siège, mais comme à Bagata, par exemple, il y a trois candidats, donc il y a trois sièges, on doit faire la sommation de toutes nos voix. Si nous sortons premiers en ce moment-là, nous avons le siège pour autant que nous ayons également le seuil. Nous pouvons être premiers, mais si nous n'avons pas atteint le seuil, et en principe, le dit parti est éliminé.
Il s'observe une certaine agitation chez certains candidats, notamment la députation nationale. Il suffit juste que quelqu'un se base sur les procès-verbaux et il se proclame déjà élu. Comment vous entrevoyez l'événement? Parce que dans quelques jours, la CENI va publier les résultats provisoires des législatives.
Bon, cette situation est totalement une distraction parce que la plupart des gens présentent des PV des centres où ils ont eu le plus de voix, mais ce n'est pas encore suffisant. Donc, il faudrait d'abord que ce soit l'ensemble des PV sur toute l'étendue de la circonscription concernée, d'une part, mais que d'autre part, il faudrait encore que votre parti ou votre regroupement ait eu un nombre de voix très élevé. Ce n'est ni question d'un PV d'un individu, mais c'est plutôt l'ensemble des PV sur la circonscription, mais ne concernant pas qu'un individu, mais le regroupement ou le parti, parce que le siège est attribué au parti et non pas aux individus. Mais seulement, c'est l'individu, c'est le candidat qui a eu le plus de voix sur sa liste, qui récupère les voix des autres et à qui on accorde le siège.
Professeur Gary Sakata, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Notre invité est professeur de droit à l'université de Kinshasa et député national. Il répondait aux questions de Grace Amzati. Par ici prend fin ce journal, coordonné par Nuela Luzitu Kabambi, Jean-Claude Nsiala à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.